C'est vendredi, c'était mon troisième enterrement en 15 jours. C'était une autre situation. C'était un serviteur de Dieu qui allait rejoindre son Seigneur, hein, celui qu'il avait servi depuis plus de 50 ans, et donc qui allait le rejoindre. Mais c'était intéressant parce que il avait prêché, hein, dimanche dernier, il a prêché dimanche matin à l'église. Et puis tout de suite après le culte, il n'était pas bien. Il a voulu se rendre à l'hôpital et il n'est jamais arrivé. Et de la voiture, il est parti dans la gloire. Mais avant de partir, l'un des frères responsables de l'assemblée, juste après le culte, il a dit les dernières paroles que j'ai entendues de mon pasteur, c'était, et je ne me souviens plus de son nom, mais il lui dit, écoute, tu t'occupes des choses ici, moi je vais me reposer là-haut. Et si vous connaissez le contexte, le pasteur vivait à l'étage et le culte était en bas. Et maintenant, bah, il dit, tu t'occupes des choses ici, moi je vais me reposer là-haut. Et il est allé réellement se reposer à la présence du Seigneur. Et c'est tout autre chose quand on a cette joie et ce témoignage. Et c'est ce que nous pouvons chacun avoir en Jésus-Christ. C'est lorsque nous sommes en règle et nous vivons pour le Seigneur. Et puis après, on fait un pas dans la gloire. Et puis c'est tout. Et au lieu de dans le vide. Nous allons reprendre nos études dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, vous vous souvenez qu'on avait dit que les trois premiers chapitres d'Éphésiens étaient doctrinaux, et puis que les trois derniers chapitres étaient la doctrine mise en pratique. Et donc, nous avions déjà vu les six premiers versets, et nous avons souligné le fait qu'il y a ce mot un seul qui revient, cette unité. Et il a vraiment souligné, il a mis en valeur cette réalité que l'unité du corps de Christ, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, qu'ils ont reconnu qu'ils avaient le droit à rien du tout auprès de Dieu, mais qu'ils ont vu la grâce de Dieu, ils ont cru à la grâce de Dieu qui leur offre le salut et qui ont dit « Seigneur, sauve-moi ». Eh bien, ceux-là deviennent enfants de Dieu, et en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, sont unis à ce corps de croyants qui est appelé, qui est l'Église. Hein, donc, l'Église, ce n'est pas une organisation, c'est un organisme, c'est composé d'êtres vivants. Et donc, nous avons vu comment nous partageons tous une même espérance, qu'on soit juif ou grec, qui était une situation, un problème à l'époque. Il y avait les juifs d'une part et les païens d'autre part, mais maintenant il n'y a plus de distinction. Tous, pourquoi ? Parce que tous ont cette même espérance d'un jour être à l'image de Jésus-Christ. Chacun a été introduit par le baptême de l'Esprit, introduit dans le corps de Christ. Et nous avons tous un même Père, notre Père Céleste. Le Seigneur nous a enseigné, il a dit, quand vous adressez à Dieu, dites notre Père. Donc, parce qu'il veut être Père, et parce qu'il est le Père de chacun et de tous, ses enfants. Et donc, l'unité du corps est réelle. Et il n'y a plus de distinction devant le Seigneur, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus juif ni païen, il n'y a plus homme ni femme, il n'y a plus toutes ces distinctions qu'on peut avoir dans notre société. Nous sommes, pour lui, il nous voit tous comme des êtres humains qui portent son image. Et nous sommes tous importants, que ce soit celui qui a le visage bébé, que ce soit celui qui a le visage couvert de rides, marquant la souffrance de sa vie. Eh bien, pour le Seigneur, on a tous devant lui, il nous aime pareillement. Et nous avons aussi souligné le fait que toute la Trinité, les trois personnes de la Trinité étaient là. Il y a une synergie de chacun, c'est son œuvre et la synergie des œuvres de l'Esprit, de Christ sur la croix, du Père Céleste qui intervient. Eh bien, tout cela produit ce corps de Christ et produit une œuvre dans ce corps. Et maintenant, à partir du verset 7, eh bien, du chapitre 4, verset 7, eh bien, l'apôtre Paul va dire, vous êtes tous un, mais à l'intérieur de ce corps, eh bien, vous êtes tous différents les uns des autres. Hein, ce sont ces deux aspects. Il y a on n'est pas comme des épingles à linge dans une boîte où tous se ressemblent, tous sont exactement pareils et tous font. Non, il dit vous êtes un seul corps, mais vous êtes tous distincts. Et donc, ce matin, nous voulons déjà commencer à lire à partir du verset 7. Je vais lire du verset 7 jusqu'à 13, même si ce n'est pas la fin de la phrase, mais Éphésiens chapitre 4, verset 7. Il dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Il y a beaucoup là-dedans. Et puis il y a des parties, vous allez dire, j'ai rien compris. C'est très bien, hein, il n'y a pas de problème. Ce que nous voulons faire ressortir ce matin, c'est surtout cette distinction, c'est ces dons spirituels. Vous avez vu dans le verset 7, il y a tout de suite, il parle de dons de Christ, les dons spirituels. Donc la réalité des dons, d'abord. Ensuite, nous allons voir la variété des dons, et puis après le but de ces dons. Et d'abord la réalité de ces dons. Le Saint-Esprit inspire l'apôtre Paul à écrire aux Éphésiens et pour les instruire au sujet de cette provision que Dieu fait au corps. C'est une grâce de Dieu que de donner des dons spirituels à l'Église, au corps de Christ. C'est une réalité, et nous l'avons souligné la dernière fois, hein, il y a 15 jours, bien sûr, l'intention de Dieu, c'est que chacun de nous, nous soyons transformés progressivement à l'image de Christ. Le but final, l'état final dans lequel nous devons être, c'est à l'image de Christ. Pas de la physionomie, mais sa personne, son caractère, ses valeurs. Et donc, il faut déjà commencer à penser comme lui, il faut déjà commencer à vivre comme lui. Et puis ensuite, quand le monde nous verra, ça lui fera penser à Jésus-Christ. Mais nous avons tous des dons différents que nous avons reçus par grâce afin de remplir des fonctions, une fonction. Nous avons reçu, je dirais, on a au moins... Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont reçu un don spirituel et c'est peu qu'on en ait plusieurs. Comprenons la fonction du don spirituel. Et il y a beaucoup de confusion qu'il peut y avoir sur ces dons spirituels. Qu'est-ce que je veux dire par don spirituel ? Il y a, lorsque vous êtes né de votre maman, hein, de vos parents, eh bien vous avez hérité de certains talents. C'est des talents naturels, et ça provient de la première naissance. Le don spirituel, c'est l'équivalent, mais dans la deuxième naissance, dans la nouvelle naissance. C'est que, une fois que je suis venu à Christ, eh bien, je reçois des dons spirituels, quelque chose que je n'avais pas avant, et que j'ai pour remplir une fonction dans l'Église. Et je vais essayer de prendre un exemple. J'espère que je ne vais pas vous donner envie de manger en parlant, prenant un exemple de nourriture, mais voilà, je vais prendre un exemple. C'est jeudi soir, mon épouse a préparé une soupe algérienne qu'on appelle la chorba. Ceux qui ont fréquenté les Algériens savent ce que c'est. Et la chorba. Et puis ma fille qui était là et qui a mangé ça, elle a dit, tu sais papa, c'est comme ça que maman dit combien elle nous aime. Elle nous fait quelque chose qu'on aime quand on vient. Et elle a fait, maman a fait, vous la connaissez, elle n'est pas là donc je peux parler. Hein. Elle l'a fait comme on l'aime. Hein. Et elle a préparé cette chorba. Et ça, c'est un goût qui est particulièrement agréable hein, pour le palais de celui qui consomme, hein, le consommateur. Mais en même temps, il suffit de goûter, il suffit de regarder dans cette soupe et de voir que finalement, ce goût est une combinaison de beaucoup de choses. Beaucoup de choses interviennent. Et ensemble, elles produisent quelque chose de nouveau. Chaque condiment, chaque petite herbe, et puis je vais pas vous donner la recette et je la connais pas. Mais chaque chose qu'elle aimait, chaque chose apporte quelque chose. Et lorsque la combinaison du tout, eh bien, ça donne un sentiment agréable. Chaque élément apporte quelque chose à la texture, au goût, au parfum. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas que deux éléments aient le même goût. Parce que sinon, ça fera trop de ça. Hein, on ne peut pas avoir deux choses qui se copient et disent « moi, j'aime bien comme lui hein. ». Aussi, il ne faut pas qu'il y ait trop de « un ». Ou bien il ne faut pas que l'un des éléments ne remplisse pas sa fonction. Si le sel ne sale pas, eh bien c'est tout le plat qui est fade, n'est-ce pas hein, donc il faut que chaque, hein, la pincée de ceci et la cuillerée de cela et les 500 grammes de l'autre chose, tout cela ensemble apporte quelque chose. Et chacun doit remplir sa fonction. Sinon, ce n'est pas une bonne chorba. Ça ne réussit pas. Chacun doit fidèlement apporter sa part. Il y a une raison pourquoi il est là, et ça a une raison pourquoi il y a une certaine quantité. Et la deuxième chose que je veux souligner dans mon exemple, c'est que il y avait une volonté derrière tout cela, et c'est le cuisinier, la cuisinière. Et c'est elle qui décidait combien on mettait de ceci, combien on mettait de cela, pour avoir ce résultat. Ce n'est pas les éléments eux-mêmes qui disent bah, « ben nous » ou l'ail qui dit « moi j'aimerais avoir le goût du piment ». Non, c'est chacun fait et c'est elle qui décide et qui le met. Et elle décide en plus quand elle le met dans la marmite et combien elle met, elle décide de tout pour avoir ce résultat. Et vous savez... Bon, vous n'êtes pas un bol de soupe, hein, mais ce que c'est cette image de Christ avec l'Église, eh bien, il donne des qualités, il donne un goût à chaque enfant de Dieu. Et il introduit ça de manière à ce que ça produise quelque chose de bon et d'agréable. Des fois, ce qu'on trouve, et c'est là où il y a de l'abus, c'est quand tout le monde cherche le même don, quand il y en a beaucoup qui cherchent à avoir le même, et puis tout le monde... vous savez, ça ne fait pas une bonne soupe hein, quand tout est sel, ou tout est sucre, ou tout est autre chose. C'est le cuisinier qui décide. Et si on veut, si le Seigneur veut réaliser une bonne chorba, s'il veut réaliser une église qui rend de gloire, qui donne du plaisir au Père, eh bien c'est à lui de décider, et il fait comme il veut, et nous acceptons ce qu'il veut. Et moi, ma seule responsabilité, c'est d'être et de remplir la fonction qu'il m'a donnée. Il dit, toi, tu sales. Eh bien, je sale. Et je ne fais rien d'autre. Et je n'essaye pas de faire ce que fait un autre élément. Je fais juste ce qu'il m'a donné à faire. Et puis, je ne dis pas, oh, bah, j'aimerais avoir être une masse plus importante là-dedans. Non. C'est lui qui décide. Et donc, dans l'Église de Christ, l'Église est composée de personnes ayant des saveurs différentes. Et je parle du don spirituel comme une saveur, quelque chose qu'on apporte, qui se dégage, qui apporte quelque chose au tout. Et cette saveur nouvelle et différente du prochain, eh bien, il l'a reçue au moment de la nouvelle naissance, au moment où il a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Les talents, c'est une chose. Mais les talents, ça n'apporte rien spirituellement à l'Église. Ça peut servir, un talent peut servir, hein, quand on a besoin d'électricien, c'est un talent naturel, on prend quelqu'un qui sait faire ça, et ça c'est une chose. Mais pour l'œuvre spirituelle, alors là il faut que ça soit fait avec les dons que le Seigneur a donnés. Et chacun apporte, et chacun a sa part. Chaque enfant de Dieu reçoit une saveur, c'est-à-dire une qualité, une capacité qu'on appelle un don spirituel. Et c'est pour chacun cette qualité, par cette qualité qu'il peut contribuer au produit final qui sera la gloire de Dieu, qui sera un goût nouveau à la gloire de Dieu. Et vous savez... Quand quelqu'un goûte cette chorba pour la première fois et trouve bon, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, ce bourgoule, il était pas mal. Non, il dit la cuisinière. La gloire va toujours au cuisinier. Et lorsque l'Église de Dieu, eh bien, se laisse conduire, animée par l'Esprit de Dieu qui agit, eh bien, le résultat, c'est que celui qui vient de l'extérieur, qui goûte, se dire, tiens, ça me fait penser à Dieu. Parce que ça glorifie Dieu, ça ne glorifie pas le talent. C'est ça le risque, par exemple. Quelqu'un a un talent de musique. Alors, à l'église, il commence à jouer de la musique. Mais la musique, et après, les gens écoutent, ils disent, ah, il est quand même pas mal, hein, il est fort, là. Mais la gloire va à qui ? Tandis que, si son cœur est rempli d'adoration et de gloire, il se sert de son instrument pour glorifier le Seigneur, eh bien celui qui écoute dit, ah, quand il joue, ça me fait penser à Dieu. Et ça m'élève. Ça, c'est autre chose. C'est là où le talent est au service, mais l'intention, c'est la gloire de Dieu. Et c'est autre chose. Et ça, c'est quelque chose, ce désir de me servir de servir afin que ça tourne les pensées, les regards de quelqu'un vers le Seigneur, eh bien, c'est une pensée que je n'avais pas avant, mais que j'ai maintenant. Apporter une parole d'encouragement. Peut-être avant, j'étais tellement égoïste, je ne pensais qu'à moi-même, et je pensais que tout le monde devait être là pour me rendre ma vie confortable. Mais depuis que j'ai le Seigneur, il y a un amour nouveau dans mon cœur, et je suis préoccupé par le bien-être des autres. Et je désire les aider là où je peux, et ce que je peux apporter. Une parole de réconfort, un encouragement, un verset biblique. Vous savez, d'envoyer un texto à quelqu'un, dit, écoute, je passe par là, voilà un verset que le Seigneur a utilisé dans ma vie à ce moment-là. Puis la personne le reçoit et dit, merci. Vous savez, c'est des choses, c'est des sentiments, c'est des réactions, c'est des choses nouvelles qui datent depuis la nouvelle naissance, pas avant. Et ne croyons pas que la seule chose qu'on peut faire pour Dieu, c'est être prédicateur En fait, entre nous pasteurs, entre nous prédicateurs, on se dit, si tu peux ne pas être prédicateur, ne le fais pas. Parce que c'est pas si évident que ça. Hein, et si il n'y a pas l'œuvre, s'il n'y a pas le Seigneur derrière, hein, on est vite découragé. Vous savez, quand le pasteur commence à réfléchir, avec tout l'effort qu'il fait, il travaille, il étudie pendant 5-6 heures pour préparer quelque chose, et puis quand il s'imagine que les gens, en sortant, ils ont retenu qu'une petite phrase, et encore. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pour le Seigneur, parce que chacun a besoin d'une petite phrase. Il faut une petite phrase pour chacun. Que le Seigneur en utilise et apporte une parole d'encouragement. Et donc, le Seigneur donne ses capacités. Il y en a qui ont des fonctions. Il y a des... Comme je disais de la chorba, c'est juste une petite pincée. On ne le détecte même pas. Seulement, s'il n'était pas là, on le détecterait. Et il y a des rôles, et il y a des chrétiens qui sont là. Et quand ils ne sont pas là, on sent la différence. Peut-être on ne se rend pas compte parce qu'ils sont là, on s'habitue à les voir, mais le jour où ils ne sont pas là, où ils sont absents pendant quelque temps, on se dit qu'il manque quelque chose. Et c'est vrai. Le corps de Christ est un corps vivant. C'est pas une réunion de copropriétaires, hein, la rencontre du culte du matin. C'est une rencontre spirituelle. Et où c'est pas seulement on adore le Seigneur, mais il y a quelque chose qu'on fait ensemble. Et on apporte, il y a un parfum nouveau qui monte vers le Seigneur, qui se dégage de la vie et de l'amour et du cœur de chacun. Il nous dit, dans ce verset 7, il nous dit, mais à chacun de nous, je pense que vous comprenez assez bien le français pour comprendre, mais à chacun de nous, ça veut dire à chacun de nous. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire à chacun de nous. Et ça ne veut pas dire autre chose que à chacun de nous. Ça veut dire toi et moi et nous tous, à chacun de nous. Il parle aux chrétiens, aux saints qui sont à Éphèse, hein, on a vu ça dans le chapitre 1, verset 1. Il dit à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est une grâce qui nous est offerte, et c'est un privilège, et c'est extraordinaire parce que on ne pourrait absolument rien faire pour Dieu, on n'a rien à lui apporter. Mais il te dit, écoute, je te donne le moyen de me servir et de m'adorer. Je te donne la possibilité. Et c'est une grâce qu'il nous fait. Donc, c'est ce qui permet à chaque enfant de Dieu de participer, d'avoir un petit rôle, de participer au produit final de ce que Dieu est en train de réaliser dans l'Église de Jésus-Christ. Il me donne de l'importance. Parce qu'il me dit, toi, tu remplis une petite fonction, tu remplis une fonction qui rentre dans le tout et qui produit quelque chose de nouveau. Et le produit final, bien sûr, il faut qu'il ressemble à Christ. Hein. Vous savez, ce qui arrive parfois, c'est qu'il y a des mouvements chrétiens, hein, on va dire chrétiens, des mouvements, mais ils ont tellement l'empreinte de celui qui a initié le mouvement, qu'on ne voit plus Christ, on voit que la personne, je ne vais pas l'appeler le gourou, parce que ce n'est pas toujours un gourou, mais on voit tellement l'empreinte de la personne, et c'est un risque qu'il peut avoir même dans une église, hein, avec le pasteur, il laisse tellement son empreinte, que tout ressemble à lui, et l'église a les mêmes défauts que lui, et tout cela, et ce n'est pas bon. Il faut que tous, on crée quelque chose de nouveau ensemble, et il n'y a rien de dominant. C'est sûr que c'est important d'avoir de l'ail dans la chorba, mais c'est pas pour ça qu'on va mettre que de l'ail. On veut pas que toute la soupe ait l'empreinte de l'ail et qu'elle s'impose dessus. Non, Mais sa présence est importante, mais pas trop. Il en faut un peu, pas trop. Et que le Seigneur nous aide. Et c'est là cet équilibre que seul Dieu peut réaliser en se servant de personnes aussi variées que nous, qui venons de chacun des stades différents, et puis met tout ça ensemble pour faire quelque chose qui soit à sa gloire. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12, il traite de cette même question. 1 Corinthiens chapitre 12, et je vais lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens, c'est le chapitre sur les dons spirituels. Vous voyez au début du chapitre, certainement dans votre Bible, il y a marqué les dons spirituels ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout à fait ça. Mais regardez la variété dont il parle. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 4, il dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Je souligne « pour l'utilité commune ». En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et je souligne verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Le cuisinier, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas nous qui allons là et dire « Écoute, moi, je crois que tu as besoin de ce don-là, je vais t'imposer les mains et tu vas le recevoir. » Non, non, c'est le Saint-Esprit, heureusement, heureusement. Et puis il nous dit, et il les distribue à chacun, donc c'est quelque chose qu'on reçoit, hein, ils sont déjà là, ils sont enfants de Dieu, et il leur accorde cela, il le distribue comme il veut, comme il juge. C'est lui qui décide de la cuisine, hein, c'est lui qui épice à sa manière, c'est lui qui rassemble des éléments très variés, et certains, vous savez, certains éléments... Je me rappelle, en Algérie, on avait toujours des navets dans le couscous. Mais vous prenez des navets tout seul, je ne sais pas si vous avez jamais eu envie de manger des navets tout seul, ça n'apporte pas grand-chose. Hein. Mais si c'est accompagné, ça va très bien. Je dis, chacun apporte ce qu'il a. Alors ici, il nous dit, et c'est ce que je souligne, il a dit, oui, il y a une variété de dons, il y a une variété de choses, mais celui qui opère, c'est le Saint-Esprit. Hein, c'est lui qui décide, il fait comme il veut, il a une volonté. Je dis entre parenthèses, le Saint-Esprit a une volonté, c'est une personne. Hein, ce n'est pas une force, ce n'est pas une influence, c'est une personne. C'est la personne de Dieu, il a tous les attributs qui caractérisent Dieu lui-même. Donc, les dons sont une réalité, hein, et elles sont dans l'Église, et elles sont pour l'Église, pour réaliser une intention, et donc, c'est pas une question de les rechercher, mais c'est de les recevoir, et puis après de les mettre à l'œuvre. C'est surtout là le problème. Les dons sont variés, c'est ça que nous venons de voir, hein, il y a une variété de dons. En fait, le besoin d'une variété de dons, eh ben c'est incontestable. Et on ne veut pas que l'Église ait trop le goût de l'un d'entre nous. Hein. Ce n'est pas trop de celui-ci ou de celui-là. Mais c'est la combinaison qui est importante. Celui qui goûte le produit final, eh bien, toujours... fait les compliments sur le cuisinier et non pas sur les éléments qui composent la soupe. C'est-à-dire, ah, c'est cette sauce tomate, ces tomates-là, elles étaient bonnes. Non, non, c'est le cuisinier qu'on est. Vous savez, dans les épîtres, nous trouvons trois listes de dons spirituels. Il y en a une que nous venons de voir là dans 1 Corinthiens chapitre 12, et peut-être vous êtes encore là. Il y a aussi les versets 27 à 31. Donc 1 Corinthiens 12, si vous êtes encore à cette page, verset 27 à 31, il dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au don les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Je vais dire, et si vous voulez vraiment aspirer à quelque chose, ben moi je vais vous dire dans quel sens aspirer. Et vous lisez le chapitre 13, c'est l'amour. Il dit, avec celui-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que ça, Dieu le met à toutes les sauces. Hein? Et donc là, vous pouvez consommer à volonté. Hein. Là, c'est en fait, l'amour doit accompagner tous les dons spirituels. Hein. Je peux exercer un don spirituel, mais s'il n'y a pas l'amour avec, hein, c'est ça que l'apôtre Paul a dit. Hein. Il dit si je parle les langues des anges, mais si j'ai pas l'amour, je fais du bruit. Si, verset 2 du chapitre 13 dit, si j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et même la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si j'ai pas l'amour, la charité, si ça sert à rien. Et si même si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et mon corps, je livre mon corps à être brûlé, mais si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. C'est une perte de temps, c'est une perte d'effort. Donc même n'importe quel don spirituel, quand on l'exerce, si ce n'est pas accompagné d'amour, et vous savez, si vous connaissez un peu la cuisine, quand le cuisinier met un peu d'amour dedans, ça change tout quand même. Hein. C'est pas juste mécaniquement, il met de sa personne dedans. C'est une autre cuisine. Et quand Dieu, quand nous servons le Seigneur, et puis c'est animé par l'amour pour les autres, eh bien, ce sera tout autre chose. Et ce sera beaucoup plus agréable pour ceux qui le reçoivent. Là, vous avez vu une première liste. Eh bien, il y en a une autre dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, et je lis à partir des versets 3 à 8. Donc, Romains chapitre 12, à partir du verset 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous d'en avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que chacun a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte, exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a une chose que vous remarquez en lisant ces dernières listes, c'est qu'elles ne sont pas pareilles. Et elles ne sont pas exactement. Ça se recoupe, bien sûr, heureusement. Mais et la raison pour laquelle elles ne sont pas toutes identiques, c'est parce qu'aucune n'est exhaustive. Hein. Et c'est pas, il n'essaye pas de nous faire un catalogue de tous les dons spirituels. Parce que vous savez que notre Dieu est un Dieu qui est infini en tout ce qu'il fait. Donc à partir du moment que c'est quelque chose que Dieu fait, vous savez qu'il n'y a pas un nombre limité. Dieu est infini, c'est un attribut de Dieu, il est infini en tout ce qu'il fait. Il est infini dans ses attributs, il est infini dans... quel que soit. Chez nous, on est tellement dans un monde où il y a des limites, c'est qu'il y a un moment où c'est exhaustif. Hein. Certains domaines, on peut en avoir une longue liste, mais n'importe comment, c'est limité. Tandis que chez Dieu, rien n'est limité. Tout est infini. Dans toutes les directions, dans tous les sens. Et donc, on ne pourrait pas avoir une liste. Et puis après, supposons, je prends par exemple, ce don spirituel que de l'enseignement des choses spirituelles, de pouvoir expliquer la parole de Dieu. Ben, vous savez, celui qui enseigne un enfant, il y en a un, ils enseignent très bien les enfants, d'autres enseignent plutôt des adultes, d'autres touchent les jeunes, c'est pas la même chose. Il y a des variétés même dans ces dons spirituels, et c'est très varié. Et c'est le Seigneur qui donne à chacun ce dont il a besoin. Et c'est en fait c'est le besoin du moment, de l'époque, c'est la situation dans laquelle l'Église se trouve, c'est l'étape à laquelle elle se trouve dans sa croissance spirituelle. Et bien c'est tout cela qui déterminera, qui permettra à l'Esprit de Dieu de décider ce qu'on a besoin. Hein, ce que j'ai besoin, c'est une œuvre qui démarre, eh bien, elle a besoin de beaucoup d'évangélisation. Mais quand on commence à avoir une œuvre établie, et puis des personnes, après il y a un enseignement plus approfondi, le Seigneur donne en fonction du besoin, il répond toujours à un besoin. Dieu est un Dieu pragmatique, hein, qui répond aux besoins de la situation. Et donc c'est ça qui va déterminer ce qu'il donne à l'un ou à l'autre en fonction de où se trouve l'Église. Si on est cinq, on n'a pas besoin de quelqu'un avec un don de l'administration. Mais si on commence à être 500, oui, vous commencez à avoir quelqu'un qui a le don de l'administration de l'œuvre de Dieu. C'est en fonction du besoin. Et Dieu apportera et donnera au moment voulu ce dont on a besoin. Il suffit de regarder à notre monde, hein, ce monde qu'on a pas mal déjà abîmé et détérioré, mais il y a de quoi deviner qu'à l'origine c'était bien conçu et que c'était équilibré et ça avait la capacité de continuer, de se reproduire, de s'entretenir, tout était là, c'était bien fait. Alors, imagine, c'est le même Dieu qui a créé cet univers autour de nous, c'est lui qui est en train de composer son Église. Hein, c'est cette même sagesse. Mais en plus, là, il travaille avec la matière. Avec nous, il travaille avec des êtres humains qui portent son image. Et donc, là, il met son cœur. Dans la création du monde, il a mis son art. Mais dans l'Église, il met son cœur. Et n'oublions pas qu'il y a une variété de dons. Pourquoi tant d'outils dans la boîte à outils? Eh bien parce que, et c'est pour tous les besoins, parce qu'il donne, il dit selon le besoin, hein, pour l'utilité commune. En fonction de la tâche, eh bien il y a des capacités différentes. Mais le tout, c'est pour qu'une œuvre s'accomplisse et que l'œuvre se fasse. Quel est le but de ces dons? Pourquoi est-ce que nous avons? Eh bien, vous avez peut-être remarqué dans ce passage de Éphésiens chapitre 4 que l'apôtre Paul fait une citation du psaume 68 et au verset 19, hein, où il dit, donc Éphésiens 4, verset 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est une citation Et comme le frère le disait tout à l'heure, c'est toujours important de prendre les choses dans leur contexte, de comprendre dans leur contexte. Et alors, si vous lisez le psaume 68, vous allez trouver que c'est un psaume de victoire. Et si vous suivez ce psaume, je ne vais pas le faire ce matin là, mais vous pourrez cet après-midi, mais vous allez voir que, ce qu'il est en train de dire, c'est que, quelque part, on a été chercher des captifs qu'on a amenés à un point culminant. Il dira, il mettra en valeur le fait que Dieu a été chercher le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, qui étaient dans l'esclavage en Égypte, et il va les accompagner, traverser la mer Rouge, les emmener au Sinaï, jusqu'à dans Canaan, et ça prendra 400 ans, 4 siècles, mais il les amènera, et c'est certainement là le moment où David compose ce psaume, quand, il y a le tabernacle, parce que ce n'est pas le temple de Salomon, c'était donc, il a dressé une tente où on a pu adorer le Seigneur sur Mont Sion. C'est lui qui a conquis la ville, et après il a fait de cette ville la ville du Seigneur, c'est Jérusalem, hein, là, sur un Mont Sion, la ville de Jérusalem. Et donc il dit, pour lui, il dit, regardez comment Dieu a pris ce peuple qui était esclave, qui ne pouvait rien faire pour lui-même, et qu'il l'a délivré, et puis il y a tout un cheminement, il y a des étapes, il y avait toutes sortes de choses à apprendre, il y avait des enseignements à différents moments, il y avait différents prêtres serviteurs de Dieu, pour les arriver au point où ils adoraient le Seigneur sur le mont Sion, la ville sainte, la montagne sainte où on adorait Dieu. Et pour lui, il a dit, et là, ces captifs-là, eh bien, il les a amenés jusqu'à ce point-là, et là, il leur a donné des dons, il leur a fait des dons, qui leur permettent d'adorer Dieu. Ça, c'est l'œuvre complète réalisée. Dieu a réalisé son plan avec un peuple qui n'était pas facile. Hein. Moïse, au bout de 40 ans, a travaillé avec ce peuple et est devenu patient. Ça peut vous dire ce que ça... Hein. Vous voulez apprendre à être patient, ben, faites la formation qu'il a faite. Travaillez avec des gens qui sont difficiles, têtus, contraires, tout ça, et c'est là où on apprend la patience. Mais après, et bien sûr, l'apôtre Paul, eh bien, il fait référence à cela. Il dit, mais spirituellement, n'est-ce pas ce que Jésus a fait pour nous? Il a été nous prendre là où nous étions, pécheurs, perdus, avec d'autres orientations. Il a été nous prendre de là. Il nous a rachetés, il nous a délivrés. Il fait une œuvre, il travaille. Et puis nous amène jusqu'au point où nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, où nous pouvons prier, nous pouvons nous approcher avec assurance de la grâce, du trône de la grâce. Mais en plus, on est des captifs, on est des gens qui ont été libérés, on ne possède rien. Eh bien, il prélève dans le butin, il prélève des choses qu'il nous donne, il dit, ben voilà, avec ça tu vas adorer ton Dieu. Il nous donne les moyens de servir et d'adorer Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est, non seulement il m'a racheté, et puis après, pour me mettre dans les gloires, mais lui, il ne veut pas que juste de la décoration dans le ciel. Il dit, non, je vous ai libéré, et ensuite, je vous donne des dons. Dans ma grâce, je vous donne des dons qui vous permettent de pouvoir apporter quelque chose quand vous adorez Dieu. Et il voit la place réelle du don spirituel. C'est de nous donner la capacité de servir Dieu. Parce que sinon, avec nos, autrement, nous ne pouvons rien faire. Parce que une prière, même une belle prière bien composée, mais qui n'est pas par l'Esprit de Dieu, c'est du bruit qui part dans le néant. Nous n'avions aucune possibilité de faire. Mais il dit, j'ai pris des captifs et je leur ai donné des dons pour qu'ils puissent servir et apporter. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est un Dieu qui... Vous avez déjà vu sur les places, là, où, surtout là où il y a beaucoup de touristes, où il y a quelqu'un qui est en train de faire de la musique ou faire des choses, de la distraction. Et puis après, le papa, il voit que sa petite gamine, elle est vraiment fascinée par ce que fait ce monsieur. Et alors, mais bon, elle n'a aucun moyen de lui exprimer son appréciation. Il met sa main dans la poche, il sort une petite pièce, il dit « Tiens, va lui mettre ça dans le chapeau. » Il lui donne les moyens d'exprimer quelque chose. En fait, c'est ça que Dieu fait pour nous. C'est les dons spirituels, c'est il nous donne un moyen de pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Et donc, si j'ai reçu, s'il m'a donné la capacité de saler, il dit, quand où tu es, tu sales. N'oublie pas de saler, parce qu'il en faut. Si c'est pour un autre goût, je t'ai donné ce goût-là, et quand tu es introduit, eh bien, remplis ta fonction. Et donc, le but de ces dons spirituels, ce n'est pas pour qu'on puisse se glorifier devant les uns les autres et puis s'élever au-dessus des autres et puis croire que ça n'a rien à faire avec... ce n'est pas un honneur, c'est une responsabilité, un don spirituel. Et ce n'est pas pour les plus spirituels. Les dons spirituels sont là, c'est une grâce qu'il nous donne. Maintenant, c'est à moi de m'en servir correctement. Et nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 4, et vous avez vu au verset 12, je vais lire les versets 12 et 13, il dit, donc au verset 11, il dit, il a été donné, et voilà, il fait une liste, et puis verset 13, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour que nous soyons tous, parvenu à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure parfaite, de la stature parfaite de Christ. On va revenir à ça plus tard. Mais voilà, le but, c'est pour que nous puissions être tous transformés de plus en plus, afin de réaliser ce que le but, et vous lisez avec moi dans Éphésiens chapitre 5, et versets 25 et 26, et je parle de ce que Christ fait là, je ne vais pas m'intéresser au mari, mais il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il dit donc, ce que je fais, je vous donne à chacun un don spirituel pour que vous agissiez les uns sur les autres et pour qu'il y ait cette transformation en une épouse glorieuse, sainte, sans tache, irrépréhensible. Il dit, waouh, ça je ne sais pas. Eh bien, le cuisinier c'est qui? Heureusement que ce n'est pas moi. C'est lui qui gère ça. Et il le fait. En conclusion, ce que je vais dire, c'est ce que je comprends, c'est que chaque enfant de Dieu est important. Il n'y a pas, lui, il a ce don-là, wow. Non, chacun est important. Certains sont plus visibles que d'autres, mais c'est pas l'important, c'est pas là. C'est le produit final qui importe, et qu'il soit la gloire de Dieu. Et qui n'est pas trop le goût d'une personne, mais qui est plus, il représente l'œuvre commune. Chacun participe, et chacun participe positivement ou négativement. Si le sel ne sale pas, il participe négativement. Et tous les autres remplissent leur rôle, mais le sel ne sale pas, la soupe elle est fade. Mais si chacun apporte ce que Dieu lui a donné à apporter dans cette église, le résultat, c'est que ceux qui goûteront, seront attirés vers ce cuisinier. Ils diront, on aime bien, on vient bien aller chez lui. Et ce que nous voulons, c'est que, donc pratiquement, pour nous, localement, nous sommes une église, eh bien, chacun qui est au Seigneur participe, apporte, positivement ou négativement. Hein. Il n'y a pas de ben « moi, je fais rien, mais je gâche rien ». Non, non. Si je fais rien, je gêne. Chacun doit apporter. Il faut mettre sa vie en ordre, il faut mettre les choses en ordre pour que tout se passe comme le Seigneur désire. Et pour que nous puissions être un témoignage, nous pouvons être une, excusez-moi, mais une bonne chorba dans notre agglomération, hein, pour que les gens soient attirés aux cuisiniers. Vous savez, Gandhi a dit une fois, ceux qui détournent le plus les gens de Christ, ce sont les chrétiens. C'est pas ce qui se passe chez les autres. C'est le comportement des chrétiens qui fait que les gens se détournent de Christ. Et nous devons être... Le monde est... il comprend qu'on ne soit pas parfait. Mais il comprend aussi quand on ne fait pas d'efforts. Ou que ce ne soit pas dit à Fréjus que quelqu'un ne veuille pas venir au Seigneur à cause de l'église baptiste de Fréjus. Que ça ne puisse pas être dit. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, c'est leur problème, mais qu'ils ne se servent pas de nous comme excuse. Le Seigneur pourra leur dire, écoutez, vous avez entendu parler, vous avez vu, vous avez goûté, qu'est-ce que vous avez fait avec, hein, donc que le Seigneur nous aide déjà d'apprécier cette grâce que le Seigneur a fait, de nous donner les moyens de le servir. Deuxièmement, qu'il veut et veuille faire une œuvre parmi nous. Et troisièmement, qu'il y ait un impact dans notre communauté. Je vous donne quelques instants pour de silence et pour chacun peut méditer en fonction de où il rentre là-dedans et ce qui pourrait le toucher. Et dites ce que vous avez à dire au Seigneur, que ce soit du merci ou pardon ou aide-moi ou peu importe ce qui est votre prière, mais dites-le et après quoi je vais prier.